7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle de la place des femmes en politique aux États-Unis et leur poids en tant qu'électrices dans les élections de mi-mandat. Jamais elles n'ont été aussi nombreuses à se présenter à des élections. Après le raz-de-marée de candidatures féminines pour les primaires, il reste 237 femmes dans la course pour la Chambre des représentants. 23 femmes briguent un poste de sénatrice et 16 un poste de gouverneur, selon le Center for American Women and Politics. Alors, comment expliquer cette vague rose en grande partie dans le camp démocrate alors que la politique américaine est globalement très loin de la parité? Il y a bien sûr la personnalité clivante de Donald Trump, mais sur le fond, quelles sont les chances des femmes de remporter des sièges? Qui sont ces candidates? Quel est leur parcours? Un an après MeToo, certaines évoquent la nécessité d'avoir une paire d'ovaires pour redresser le pays. Et puis il y a une autre grande question, pour qui vont voter les femmes? Selon les études d'opinion, 60% des femmes habitant les banlieues des grandes villes et qui avaient voté pour Trump en 2016 pourraient ne pas voter républicain. Deux ans après la défaite d'Hillary Clinton, le vote des femmes ainsi que leur engagement en politique vont-ils jouer un rôle décisif dans ces élections de mi-mandat? On va en parler avec nos invités, tous les deux spécialistes des États-Unis. Marion Douzou, bonjour.
Bonjour.
Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, vous avez publié sur les femmes républicaines, de la sphère domestique à la sphère politique, l'engagement des militantes du Tea Party, c'est l'aile droite du parti républicain. Dick Howard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite de l'Université de l'État de New York. Vous avez publié Les ombres de l'Amérique, de Kennedy à Trump. Et quant à vous, les voisins et les voisines, vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, poser toutes vos questions sur la place des femmes dans ces élections de mi-mandat. Le vote se déroule en ce 6 novembre en postant vos messages sur WhatsApp.
We need more women in charge.
My name is Anne Staffa Murray and I'm running for state rep in the Illinois 81st.
My name is Val Montgomery. I'm running for Illinois State Representative, District 41.
You've probably heard 2018 is a big year for women in politics.
The year of the woman.
The year of the woman.
The year of the woman.
My name is Maureen Martin. I am running for County Commission.
I'm running because I want every Georgia family to have the freedom and opportunity to thrive. You deserve nothing less, and I know Georgia can deliver a whole lot more.
We're taking on a fight for the very soul of this country. We're taking on a fight to protect our values, to protect what we think America stands for. And we can do this together.
We are strong, we are brave, and we will fight.
Alors Marion Douzou, Dick Howard, est-ce que c'est vraiment l'année des femmes pour ces élections de demi-mandat, Marion Douzou?
Je pense qu'on peut le dire, oui, il y a un nombre très important de femmes qui se présentent. Donc vous l'avez dit, un peu plus de 250 au niveau fédéral, mais aussi pour les postes de gouverneur et au niveau fédéré. On a beaucoup de femmes dans l'État de Pennsylvanie, par exemple, c'est un nombre très important de femmes qui se présentent comparé aux midterms de 2014.
Ça veut dire, Dick Howard, qu'aujourd'hui les femmes sont devenues un vrai sujet dans la vie politique, même si on est quand même dans un pays, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on est quand même très loin de la parité pour les femmes dans la vie politique américaine.
On est très loin et en même temps, moi j'ai des hésitations un peu d'historien à propos de l'année de la femme, parce que je crois qu'il y en a eu d'autres. Et ce pourquoi d'ailleurs, dans ce livre que j'ai publié, j'ai justement cherché à mettre ça en perspective de Kennedy à Trump, quelle évolution. Prenons un seul exemple, dans le début des années 70, il y a un mouvement de femmes qui arrive à faire voter une loi qui s'appelle l'amendement sur les droits égaux, Equal Rights Amendment, qui est ratifié par 35 des 37 États nécessaires pour que ça devienne un amendement à la Constitution. Et puis tout d'un coup, d'autres femmes, enfin tout à coup, interviennent à la Cour suprême avec la décision sur l'IVG qui devient légale. Du coup, les femmes qui étaient mobilisées, toute proportion gardée comme celle d'aujourd'hui, se démobilisent. tandis que la droite fondamentaliste se remobilise. Donc, ne nous arrêtons pas sur ce phénomène ponctuel.
Oui. Et plus récemment, au début des années 90 aussi, avec l'affaire Anita Hill,
exact.
Où on avait eu une vague féminine au Parlement. Anita Hill, qui avait accusé de harcèlement sexuel un juge à la Cour suprême, Clarence Thomas, et qui, c'était elle finalement qui avait été traitée de dévergondée, et donc ça avait scandalisé les femmes, et il y avait eu une vague aussi d'engagement politique. Mais enfin, le résultat des courses là aujourd'hui, Marion Douzou, c'est que en termes de parité, pour le moment, on a quoi, 23% de femmes au Sénat, 20% de femmes à la Chambre des représentants. 16% de femmes à des postes de gouverneur, c'est pas terrible hein, quand même pour un pays aussi développé.
Et surtout que bon, donc c'est là, il y a beaucoup plus de femmes qui se présentent que il y a 2 ans, néanmoins, enfin qu'il y a 4 ans, pardon. Néanmoins, si elles gagnent toutes, elles ne représenteront que 25% des postes. Donc ça reste.
Si toutes étaient élues, oui.
Peu, voilà.
Donc finalement, Dick Howard, comment vous pourriez qualifier ces dernières années le processus qui a amené les femmes à la vie politique?
Ah. D'abord, ouverture des universités. Ensuite, un accès de plus en plus large, assuré par des votes de loi. Et ensuite, des phénomènes conjoncturels. Et c'est ça que je voudrais souligner, parce que ma crainte, c'est toujours qu'il y a des bulles, il y a la bourse, la bourse des femmes, je ne sais pas comment on dirait.
MeToo, c'est ça? MeToo, ça serait la bourse des femmes, c'est ça?
c'est la question qu'il faut absolument se poser. Comment ces phénomènes-là peuvent...
Alors, une bulle ou une lame de fond, l'affaire MeToo, dans l'engagement politique des femmes, dans la mobilisation politique aussi des électrices, ça pèse quoi aujourd'hui, MeToo, associé à la personnalité du président Trump aussi, Marion Douzou?
Je pense que ça a eu un réel effet. Je pense que ça a créé des conditions qui ont fait que certaines femmes se sont senties plus libres de se présenter, parce qu'aussi elles sentaient qu'elles auraient un écho dans l'électorat. Je pense aussi que les femmes qui se présentent ont bénéficient de beaucoup de départs à la retraite de représentants ou de sénateurs, qui font que les conditions d'accessibilité de ces élections sont plus faciles. Et donc, ça fait également partie des raisons pour lesquelles on voit une augmentation des candidatures.
L'effet Trump, pour vous, Dick Howard, qui d'ailleurs commence bien avant MeToo, avec le raz-de-marée, les dizaines de milliers de femmes manifestant contre le président Trump, entre autres pour ses propos sexistes, ses discours haineux contre les minorités, etc.
Ah, mais là, vous dites quelque chose, je ne sais pas si c'était votre intention, mais si on met en rapport le sexisme d'une part et le racisme d'autre part, quel est exactement ce rapport? Et moi, si vous me permettez de parler un peu de mon expérience du début de ces mouvements-là, dans les années 60, il y avait le mouvement des droits civiques, il y avait des blancs bien intentionnés qui venaient en aide à nos... camarades, entre guillemets, noirs. Et à un moment, les Noirs ont dit, mais basta, vous avez de bonnes intentions, mais vous prenez toujours, vous assumez une position dominante, il faut qu'on se sépare, et voilà qu'il y a le Black Power. De même, pendant ces mêmes années 60, il y avait aussi, dans ce mouvement des droits civiques, il y avait aussi des femmes. Et un peu la naissance du féminisme peut se trouver là, dans les années 60, comme une réaction contre nous, hommes bien intentionnés, mais qui avait ce que Bourdieu appellerait un habitus, on avait ces comportements, on n'en était pas conscient. Je ne dis pas qu'on était Harvey Weinstein, mais qu'il y avait des gestes, des choses qu'il fallait apprendre. Et donc, je crois que le féminisme est né en réaction à nous, qui n'étions pas des Donald Trump ni des Harvey Weinstein, mais qui avaient l'habitude de dominer.
Mais néanmoins, Marion Douzou, la personnalité de Donald Trump, qu'on a beaucoup décrit aussi comme un homme qui n'est pas compétent pour le job, qui ne travaille pas, même si en ce moment, c'est clair qu'il donne tout pour aller de meeting en meeting. Est-ce que ça a joué aussi dans l'inconscient des femmes qui, pour beaucoup, se disent « je ne suis pas légitime, je ne suis pas... » On a dit que certaines se disaient « mais finalement, si ce type est président, alors, que moi, alors moi aussi, je suis légitime pour entrer en politique. »
Alors, je pense que ça, la personnalité de Donald Trump a joué, enfin la personnalité de Donald Trump a joué un rôle dans leur mobilisation, dans la mobilisation des femmes et dans leur candidature. Je pense que notamment beaucoup expriment dans leurs vidéos de campagne le fait qu'elles sont fatiguées de voir des hommes blancs aux commandes. Et par exemple, en Pennsylvanie. Il y a 18 représentants à la Chambre fédérale de l'État de Pennsylvanie. Ils sont tous hommes et ils sont tous... c'est tous des hommes. Et donc, il y a, dans leur vidéo de campagne, elles disent « c'est pas étonnant que ce soit le bazar, il n'y a que des hommes ». Donc, elles se représentent comme peut-être des sauveuses potentielles.
L'affaire Kavanaugh, ça a pesé aussi dans l'exaspération des femmes.
Certainement. Et il faut dire aussi que ces protestations sont peut-être allées trop loin, il faudrait en discuter. Comme on savait qu'il allait être confirmé par le Sénat, est-ce que c'était une bonne tactique, oui ou non, de soulever cette accusation de viol qui datait de quoi, 35 ans, je crois à peu près, est-ce que c'était sage? Parce que du coup, un des slogans de notre président américain, c'est justement que l'identité ou le groupe ou la communauté la plus opprimée aux États-Unis, ce sont des hommes blancs. Parce qu'ils sont toujours susceptibles d'être accusés...
De plus de 50 ans, voire même.
Et du coup, quand même, ils jouent la même musique qu'ils jouaient en tant que racistes, en parlant de Mexicains ou en mettant en question la naissance américaine de Barack Obama.
Alors, qui sont ces femmes qui se présentent? Comment utilisent-elles ou pas le fait qu'elles sont des femmes? Quels sont aussi les parcours de ces candidates, hein, qui ne débarquent pas toutes dans la vie politique? Comment sont-elles formées? Comment sont-elles coachées? Quelles sont aussi leurs convictions? On va en parler juste après Beyoncé, un des nombreux soutiens démocrates du show business. Run the World, Beyoncé chez 7 milliards de voisins. On est en direct sur RFI en ce mardi 6 novembre, élection de mi-mandat aux États-Unis. On s'interroge sur le rôle des femmes à la fois dans leur engagement politique, puisqu'on assiste, c'est vrai, à une très forte augmentation de proportion de femmes candidates, même si on a eu ce raz-de-marée. Puis au moment des primaires, évidemment, une grande partie ont été balayées, mais ça, c'est le jeu des primaires. Il en reste néanmoins un nombre important, 237 femmes qui sont dans la course pour la Chambre des représentants, 23 femmes qui briguent un poste de sénatrice, 16 femmes un poste de gouverneur. Il faut savoir que quand même les postes de gouverneur, quand même très très peu de femmes qui sont gouverneurs aux États-Unis.
6 actuellement.
Alors, qui sont ces femmes qui se présentent? Comment elles utilisent ou pas d'ailleurs le fait qu'elles sont des femmes? Voici un élément de réponse avec Amy McGrath, qui a 43 ans, candidate démocrate à la Chambre des représentants dans le Kentucky.
À 12 ans, je savais exactement ce que je voulais faire quand je serais grande. Je voulais piloter des avions de combat et faire carrière dans l'aviation, parce que c'était ce qu'il y avait de mieux à mes yeux. À 13 ans, un membre du Congrès de mon État m'a dit que je ne pourrais jamais voler en zone de guerre. Il m'a dit que le Congrès pensait que les femmes devaient être protégées et non pas aller au combat. Je n'ai jamais eu de réponse à la lettre envoyée au sénateur de mon État, Mitch McConnell. J'ai par la suite écrit à chaque membre de la Chambre des représentants et du Sénat du Comité du service des armées pour leur demander de changer la loi. Ceux qui m'ont reçu m'ont dit que je n'y arriverais jamais, mais je savais que j'y parviendrais. Je suis ensuite allée à l'Académie navale et c'est à ce moment que la loi a été changée. Je suis Amy McGrath et j'aime notre pays.
Amy McGrath, candidate démocrate à la Chambre des représentants dans le Kentucky. Il faut dire que la majorité des femmes qui se présentent aujourd'hui sont dans le camp démocrate. C'est une ancienne pilote de chasse. Elle a été vétérante de l'Afghanistan, de l'Irak aussi, me semble-t-il. Comment, pour vous, finalement, vous avez l'impression, Marion Douzou et Dick Howard, comment se présente ce type de femmes? Alors, bien sûr, dans la vie politique américaine, il y a quand même un art du storytelling qui n'est pas propre aux femmes, hein, de réécrire son histoire personnelle pour se vendre politiquement. Marion Douzou.
Oui, tout à fait. Dans son clip de campagne, elle parle de tous les obstacles qu'elle a franchis. Elle l'intitule « Doors », donc les portes qu'elle a dû traverser. Et elle fait état de tous les obstacles qu'elle a rencontrés. Et ça, je pense que beaucoup de femmes le font cette année dans leur clip de campagne. Et où elles mettent beaucoup en avant leur famille et leur qualité de mère. Et le fait qu'elles puissent jongler à la fois leur carrière politique et le fait d'être mère.
On a plusieurs femmes qui sont candidates d'ailleurs et qui sont d'anciennes militaires et qui jouent sur cette corde-là, Dick Howard.
Oui, et...
Corde masculine.
Oui, mais il y a eu une transformation dans la vision de ce qu'est et ce que peut être une femme. Et ce qui est curieux, je me rappelle les origines de tout cela, c'était un résultat du mouvement des droits civiques des Noirs. Et quand le Congrès devait voter une loi sur les droits civiques, il y avait un républicain qui s'opposait à cela et qui disait, tiens, ben, je vais ajouter une clause qui dira que les femmes auront aussi égal accès à tout ce qui est possible. Et lui, il croyait qu'il allait saborder l'acte. Au contraire, cet acte, c'est le titre 9 de l'acte des droits civiques, qui a permis, par exemple, à des petites filles d'avoir une égalité dans les équipes de sport. Et s'il y a une équipe de football américain, il y aura une équipe équivalente d'un sport plus féminin, si l'on veut. Et à partir de là, on commence à se saisir de ces possibilités. Et c'est remarquable, les accidents.
Oui, c'est ça. C'était pas voulu au départ. Est-ce qu'aujourd'hui, un an après MeToo, Marion Douzou, être une femme, c'est devenu un argument électoral?
Alors, je crois que pour les candidates démocrates, oui, absolument. Elles se présentent à nouveau, quand on regarde leurs vidéos de campagne, allaitant leur enfant en direct. L'État de New York, pour la première fois, a accepté de prendre en compte la les frais de babysitting pour les femmes qui se présentaient dans les frais de campagne. Donc c'est quand même assez nouveau. Donc ça, tout ça, je pense, témoigne d'un changement de fond.
D'une certaine manière, l'idée d'égalité est élastique. Et du coup, comme les Noirs à un moment, les femmes à un autre moment, on s'en saisit et on en fait des transformations qui n'étaient pas attendues. Cette idée de babysitting comme frais de campagne...
Ça aurait été impensable il y a quelques années.
Est-ce que ça existe en France? Est-ce que ça existe les pays dits avancés? Je ne pense pas.
Alors, quelles sont leurs chances réelles? Est-ce que, par exemple, Stacey Abrams, candidate démocrate au poste de gouverneur en Géorgie, dans un État conservateur du Sud, peut l'emporter? On l'écoute en campagne, Stacey Abrams.
Il y a une chose qu'il faut dire. Pour revendiquer notre victoire, pour écrire le prochain chapitre et prétendre à un destin meilleur, on a du pain sur la planche. On doit tendre la main à ceux qui ne croient pas que leur voix compte, à ceux qui ont été déçus encore et encore par des promesses faites et jamais tenues, à ceux qui vivent dans des villes négligées, dominées par la pauvreté, à ceux qui vivent dans des banlieues sans emploi et sans opportunités, à ceux qui vivent dans des villes où il est de plus en plus difficile d'y vivre à cause du manque d'infrastructures. Au cours des 6 prochains mois, on va devoir travailler ensemble pour refaire notre Géorgie. Avec votre aide, on va répertorier chaque personne que nous connaissons.
Stacey Abrams, africaine-américaine, si elle était élue, pourrait être la première femme noire gouverneur.
Tout à fait, oui, ce serait une élection sans précédent. Elle a une bataille difficile devant elle. Je vais pas me lancer dans des pronostics. L'élection de 2016 a montré que ça portait pas vraiment chance.
Mais est-ce que ce sera parce qu'elle est femme, parce qu'elle est noire, parce qu'elle est justement d'un milieu urbain.
Démocrate.
Et urbain, parce que quand même, la Géorgie, vous dites que c'est un État conservateur, mais c'est un État en pleine transformation, surtout si on prend la région autour de d'Atlanta, au contraire. Et c'est un État aussi qui a une tradition de leadership en ce qui concerne les droits civiques.
Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus tous les deux, globalement, sur les profils, sur les parcours de ces candidats? D'ailleurs, dans le camp démocrate, tout comme le camp, vous avez beaucoup travaillé sur le camp conservateur, Marion Douzouk, comment est-ce que vous pourriez qualifier ces parcours?
Je pense qu'il y a une grande diversité. On a parlé des anciennes combattantes. En Pennsylvanie, un professeur de sociologie qui a outré par l'élection de Trump s'est lancé dans une campagne. Et il y a beaucoup d'élus qui étaient déjà élus au niveau fédéré et donc qui ont déjà une expérience politique forte et qui maintenant se lancent dans la course fédérale.
Et pour vous, Dick Howard, comment vous voyez les parcours de ces femmes, les origines sociales aussi?
Ce qui est intéressant, c'est que mettons, il y a 30 ans, 40 ans, comme dit Marion, effectivement, les femmes étaient engagées au niveau local, voire au niveau de l'école. C'est intéressant.
C'est-à-dire, première étape après la sortie du foyer, c'est ça que vous voulez dire?
En fait,
du management de la famille?
C'était la transition. C'était, par exemple, justement, j'avais toujours les enfants à la maison, mon mari travaillait, et moi, je m'engageais après l'école, par exemple, de faire des trucs de récréation, mais ce qui est intéressant, c'est que comment elle s'en saisissent de ces possibilités maintenant et comment il faut quand même prendre aussi en considération le climat américain depuis l'échec de la guerre en Irak. Je crois on revient sur les guerrières d'une part, mais d'autre part il y a aussi vous avez cité au début cette remarque que je connaissais pas d'ailleurs, l'histoire des deux faut avoir deux ovaires pour entrer dans le Congrès. Je connaissais pas ça, mais bon,
symétrique à la paire de testicules.
Oui, je suppose. C'est comme ça que j'ai appris l'anatomie, en tout cas. Mais ce qui me frappe tout de même, c'est que Ça, c'est un côté pacifiste, c'est-à-dire, c'est curieux, ces guerrières, si je puis dire, veulent montrer qu'elles sont les seules, que parce qu'elles ont été guerrières, elles sont capables de faire la paix, d'assurer la paix.
Oui, et je crois que pour parler un petit peu des femmes républicaines, chez les femmes républicaines, l'argument alors de guerrière transparaît, mais surtout elles se montrent beaucoup dans les clips de campagne armées et tirant sur des cibles, etc. Et ça fait vraiment partie pour elles d'un argument électoral.
À qui vous pensez en particulier ?
Je pense à... Alors, pour vous donner des noms...
Parce que c'est vrai qu'en plus, dans les médias, là, ce qui a été beaucoup relayé, ça a été des parcours de femmes démocrates. D'accord, elles sont plus nombreuses. En réalité, il y a des républicaines dans la vie politique, dans le camp conservateur, depuis quand même pas mal de temps.
Oui, tout à fait. Et à tous les échelons de la politique américaine, c'est-à-dire, Decoad parlait des écoles. Elles ont été très actives à ce niveau-là, mais elles sont très actives à tous les échelons. Et je pensais par exemple au gouverneur Kay Ivey, gouverneur du Wisconsin, qui est candidate pour être gouverneur du Wisconsin et qui se présente tirant sur des cibles de tir.
Ouais. Comment sont coachées, formées ces femmes à la vie politique ? Il y a des organismes qui ont émergé, c'est le cas de le dire, pour Emerge California, il y a Emerge America sur le plan national qui a formé plus de 3000 femmes et le nombre qui a vu un nombre de candidatures affluer pour être formées à la prise de parole en public, aux interviews, etc. Et forcément, vu qu'il y avait un raz-de-marée pour les primaires, un raz-de-marée de femmes, ces femmes-là ont été demandeuses de formation. Est-ce que le rôle de ces organisations a été primordial, notamment dans le camp démocrate, mais pas seulement, Mayron Zouzou ?
Je pense que oui, il a été fondamental. Pour les conservatrices, elles sont formées depuis des années par tout un tas d'organisations qui existent au niveau national et qui se rendent dans les États.
Il y a notamment Winning for Women.
Alors oui, dans le mouvement du Tea Party que moi j'ai particulièrement étudié, il y a...
Donc l'aile droite du Parti républicain.
Absolument.
Il faut le dire, on n'en parle plus tellement hein, d'ailleurs du Tea Party.
Oui, la présidence Trump a réduit son impact puisque les gens ne se rassemblent plus en meeting comme ils le faisaient avant, mais s'engagent dans des campagnes ponctuelles pour des candidats. Mais leur force de frappe est toujours importante. Ouais.
Sur la capacité des organisations à pousser les femmes, à leur donner confiance en elles, à transcender un peu les idées reçues dans l'inconscient des femmes elles-mêmes, dit Coward.
Bah écoutez, on dit toujours que le nerf de la politique, comme le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, il y a déjà le financement qui joue un rôle.
Et il faut être formé à la levée de fonds. Ça aussi, c'est un job en tant que tel.
Je ne sais pas comment on le ferait. J'ai du mal à demander à emprunter de l'argent. Mais on y arrive. Mais il y a une autre chose, et puis j'ai une question pour Marion. Une partie de la formation vient, je suis sûr, de la religion, des églises. Surtout, j'imagine, du côté républicain. Mais je ne connais pas du tout ça et je serais intéressant que vous parliez un peu de cette formation.
Dans la façon de former les femmes à l'entrée dans la vie politique ?
Alors, je pense, oui, les églises. Mais alors, le mouvement du Tea Party rassemble beaucoup de conservateurs qui ne sont pas nécessairement des conservateurs religieux, mais plutôt autour des thèmes économiques, etc. Donc, beaucoup de libertariens qui se forment beaucoup au sein de ces meetings et avec l'aide d'organisations comme Americans for Prosperity ou donc des organisations nationales qui viennent les former.
C'est-à-dire une pensée libérale dans le sens économique du terme qui rencontre une pensée fondamentaliste. C'est un peu l'eau et l'huile. Comment ça se mélange ?
C'est vrai que c'est un mélange compliqué et c'est un mélange qui se négocie dans chaque groupe différemment et selon les leaders qui sont à la tête de ces groupes, etc.
Quel est le regard des hommes du Parti républicain sur l'engagement des femmes en politique, démocrate ou républicaine d'ailleurs ? Marion Zouzou.
Je pense que c'est difficile de répondre à cette question de manière générale. J'ai rien vu qui montrait qu'il ne l'encourageait pas.
Ouais, en tout cas, c'est le Parti démocrate là, qui a misé clairement sur les femmes, sur les jeunes. Alors, qu'en est-il des jeunes? On n'a pas encore parlé des jeunes. On écoute la plus jeune candidate, Alexandria Ocasio-Cortez, 29 ans, démocrate candidate à la Chambre des représentants dans l'État de New York.
Je vais vous dire une chose. On était à 8 minutes de la fermeture des bureaux de vote. J'étais dans mon quartier d'origine, dans le Bronx, et deux jeunes adolescents, comme des enfants, sont venus me dire « On vient juste de voter pour vous !» Et j'étais là genre « Mais quel âge avez-vous ?» Et ils m'ont dit « 19 ans ». Et je me suis dit « Waouh ! Des jeunes qui votent à la primaire des élections de mi-mandat ?»
Voilà, un style très jeune, un physique de mannequin, Alexandra Ocasio-Cortez, Marion Douzou.
Je pense que ça traduit peut-être une tendance de fond qui est la volonté d'avoir des élus qui représentent la diversité de l'électorat. Donc à la fois, on a vu des femmes, des Noires américaines, mais aussi des jeunes. Et en fait, je pense que ça, il y a une vraie...
Ce qui est assez surprenant, c'est que l'État de New York est démocrate, donc on est sûr qu'elle va l'emporter, a priori. Elle a balayé aux primaires un démocrate qui était élu depuis 20 ans dans le Bronx.
Oui, qui allait être... S'il était réélu, il serait devenu le numéro 3 du parti et probablement le leader démocrate après la disparition de celle dont on n'a pas parlé, mais qu'il faudrait parler, à savoir Nancy Pelosi, qui est quand même le speaker, donc le président de la Chambre.
Très contesté, entre autres à cause de son âge d'ailleurs.
78.
Sur les réseaux sociaux, par les jeunes.
Oui.
Mais c'est aussi l'establishment de Washington, c'est pas que son âge.
C'est intéressant, en fait. C'est une femme qui est entrée tard dans la vie politique à San Francisco, mais elle était la fille du maire de Baltimore et elle était exposée très jeune à la politique d'autrefois, la politique des partis d'autrefois. Et elle est finalement, elle est législatrice, je ne sais pas si ça se dit, et elle sait demander de l'argent aux généreux donateurs. Ouais.
Alors on est parti sur Nancy Pelosi, mais moi je vous avais interrogé sur les jeunes et sur la candidature d'Alexandria Ocasio-Cortez. Elle est en même temps partisane vraiment aile gauche démocrate de Bernie Sanders. Elle n'est pas représentative en même temps de l'ensemble des candidates démocrates, non Marion Douzou?
Ça dépend vraiment des États et des circonscriptions auxquelles on s'intéresse. Elle se présente elle-même comme une candidate socialiste. Mais je pense que sa candidature montre une soif de remplacer la vieille génération du Parti démocrate et peut-être même après l'élection de 2016 où il y a Hillary Clinton qui fait partie d'une dynastie importante en politique américaine et qui là pense peut-être à se représenter en 2020. Je crois qu'il y a un désir de dire assez de la part des jeunes et de beaucoup de démocrates.
Et vous, Dick Howard, qu'est-ce que vous pensez des positions politiques des femmes candidates à ces élections de mi-mandat? Est-ce que globalement, elles s'affichent sur des positions très progressistes pour les droits des minorités ou pas forcément notamment, par exemple, sur les questions religieuses, sur l'avortement, sur...
Écoutez, restons un instant avec Alexandria. Elle se présente comme socialiste, comme Bernie Sanders d'ailleurs. Et les auditeurs qui auront accès au Monde en date d'aujourd'hui verront un article assez fascinant. Le Conseil économique de Donald Trump vient de publier un papier de 70 pages pour dénoncer le socialisme, entre guillemets.
En disant, c'est le Venezuela, quoi, en gros.
C'est en gros Venezuela, et surtout, c'est aussi le parti des socialistes démocratiques comporte environ 50 000 adhérents. Mais ce papier dans Le Monde est écrit d'un ton ironique, et ça en dit longue, non pas sur le fantasme de certains Américains, mais pour revenir à cette question des jeunes, On a toujours eu des mouvements de jeunes. S'il n'y en avait pas, il y aurait vraiment une société morte, pour ainsi dire. La question, c'est qu'est-ce que devient ces jeunes?
Et les jeunes se sont beaucoup mobilisés ces derniers temps, notamment contre les armes à feu, après la tuerie terrible en Floride. Et en même temps, les femmes candidates démocrates, est-ce qu'elles prennent des positions très claires sur des questions de ce type?
Moi, je pense à la candidate du Connecticut qui se présente, j'ai oublié son nom, qui est une femme noire américaine, Joanna Hayes, il me semble, et qui, elle, se présente aussi, attaque Donald Trump sur son idée de vouloir puiser dans le budget de l'éducation pour mettre des personnes armées pour défendre les écoles. Donc, c'est un argument de campagne pour certaines. Alors, ça dépend beaucoup des États.
Comme dans le 9-3 actuellement en France, où on parle de mettre un flic dans les écoles.
Il y a pas mal de femmes qui se présentent vraiment sous la bannière défense des minorités. Je pense à Rachida Tlaib, qui est démocrate, candidate dans le Michigan, qui est fille d'immigrés palestiniens. Il y a Ilhan Omar, qui est démocrate, qui se présente dans le Minnesota, me semble-t-il, qui est issue d'une famille somalienne, qui est arrivée d'ailleurs très tardivement aux États-Unis, enfin à 12 ans, hein, après avoir vécu dans un camp de réfugiés au Kenya. Il y a Paulette Jordan qui serait peut-être la première amérindienne gouverneure si elle était élue dans l'Idaho. Est-ce qu'il y a là aujourd'hui des femmes qui jouent la carte des minorités?
Je pense qu'elles se présentent...
Oui. Ça a toujours été le cas.
Je pense qu'en tout cas, elle joue cette carte-là dans la manière dont elle se présente. C'est aussi intéressant dans les femmes que vous citiez, parce que c'est des femmes qui ont fait des vidéos de campagne cette année en mettant leurs enfants dans les vidéos de campagne, comme je l'ai dit, mais aussi en demandant à leurs enfants d'être la voix off de leur vidéo de campagne, ce qui ne s'est jamais fait auparavant. C'est en général, les enfants étaient plutôt mis de côté, et là, ils occupent vraiment une place centrale.
Des femmes qui jouent vraiment la carte de la personnalisation dans leur candidature, aussi bien sur leur parcours, sur leur vie de famille, où tout est mêlé. Alors on va bien sûr parler dans quelques instants du vote des femmes, c'est une des inconnues du scrutin. Pour qui vont voter les femmes? Que vont faire les électrices républicaines qui ont voté Donald Trump en 2016? On en discute, ça sera juste après Meghan Trainor. Is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. I to the I to the no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. I to the I to the no, no, no. First, you gonna say you ain't running game, thinking I believe in every word. Call me beautiful, so original. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. No, Meghan Trainor, chez 7 milliards de voisins sur RFI. On parle de la place des femmes à la fois dans la vie politique et de leur poids dans l'électorat. En cette journée du 6 novembre où on vote pour ces élections de mi-mandat aux États-Unis, on est en compagnie de deux spécialistes des États-Unis, Dick Howard et Marion Douzou. Alors, pour qui vont voter les femmes, Marion Douzou?
Alors, c'est peut-être un peu large comme question. Vous doutez bien que c'est un peu large comme question. Je pense que...
Elles sont majoritaires dans l'électorat.
Oui, alors je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une mobilisation très forte des femmes. Alors je reprends la Pennsylvanie comme exemple parce que c'est ce que je connais le mieux. Il y a eu, à la suite de l'élection de Donald Trump, un nouveau mouvement qui s'est créé qui s'appelle Indivisible, Indivisible, qui a créé tout un tas de groupes partout aux États-Unis qui cherchent à mobiliser l'électorat féminin, mais l'électorat démocrate, pour ces élections. Et elles ont été, et dans les groupes Indivisible de Philadelphie notamment, il y a une large majorité de femmes. C'est presque, enfin, je n'ai pas de statistiques exactes, mais c'est vraiment beaucoup de majoritairement des femmes. Et elles sont très actives dans le porte-à-porte, dans les appels aux électeurs, dans la rédaction de cartes postales, etc. Donc je pense qu'elles vont jouer un rôle.
Pour dire aux gens, votez.
Pour dire aux gens, votez. Et même pas forcément voter démocrate, mais voter pour augmenter la participation.
Ce qu'a fait Michelle Obama d'ailleurs.
Oui, absolument, parce que les élections de mi-mandat sont des élections dans lesquelles les républicains se mobilisent beaucoup, mais traditionnellement les démocrates moins. Et donc là, l'enjeu, c'est de les faire se mobiliser.
Les républicains se mobilisent plus parce qu'ils sont plus vieux. Les jeunes, si on prend les statistiques sur le vote des 19 à 30 ans...
D'où l'étonnement d'Alexandra Ocasio tout à l'heure qu'on entendait, et quand elle croise des jeunes de 19 ans qui lui disent « on va voter pour vous oui, ». Parce qu'effectivement, des élections de mi-mandat, ce n'est pas ce à quoi on peut s'attendre.
Mais d'autant plus qu'en l'occurrence, elle était candidate dans les Bronx, qui est un quartier de Manhattan, de New York, où on a tendance à ne pas beaucoup voter.
Ouais. Mais alors, donc pour qui vont voter les femmes et plus précisément les électrices de Trump, celles qui ont voté Trump en 2016?
Je crois que là encore, c'est trop large comme question. Dans la banlieue de Philadelphie, par exemple, il y a un électorat de femmes qui a l'air de se distancier de la personne du président. Mais de manière générale, les conservatrices que moi j'ai rencontrées sont très contentes du président. Donc ça dépend vraiment d'où on parle.
Quel discours elles tiennent? Comment elles perçoivent la présidence Trump?
Pour les plus conservatrices, elles en sont très contentes puisqu'il a fait des réductions d'impôts qu'elles attendaient depuis très longtemps. Il a un juge à la Cour suprême qui est contre l'avortement. De leur point de vue, il n'y a vraiment pas de quoi se plaindre. Et pour la question des femmes, elles disent beaucoup qu'il met en avant les femmes dans son administration. Et donc elles sont également très contentes de ça.
Le fait qu'il déchaîne les critiques dans le camp des progressistes américains, il y a aussi quelque chose de jubilatoire pour ces femmes?
Oui, tout à fait. Oui, elles sont très contentes. Une des militantes que j'ai rencontrées me disait qu'elle se levait tous les matins et qu'elle avait l'impression que c'était le matin de Noël et elle avait hâte de lire les tweets du président et la réaction des démocrates.
Ouais, le côté feuilleton, Dick Howard.
Écoutez, je mets un peu d'eau dans le vin de ces excités, si je puis dire. Parce qu'il faut... Nous sommes donc le jour de l'élection. Nous sommes à Paris. Le vote va commencer dans quoi? On est presque midi, donc ça va commencer dans une heure à peu près aux États-Unis.
Il faut se souvenir,
de quoi il s'agit. Avant tout, il s'agit du Congrès et surtout de la Chambre où il y a un renouvellement de tous les députés. Et il y a le phénomène terrible aux États-Unis, du charcutage des circonscriptions qu'on appelle gerrymandering en anglais. Et pour prendre l'État que Marion connaît très bien, la Pennsylvanie, bien que le nombre de démocrates dépasse de loin le nombre de républicains, y compris dans l'électorat, la délégation de Pennsylvanie au Congrès est totalement dominé par les républicains à cause de ces charcutages. Donc, et encore un phénomène, quand même, il faut se souvenir que Hillary Clinton a eu 3 millions de votes de plus que Donald Trump. Et malgré ça, on a Donald Trump comme président.
Et alors, ça veut dire que du coup, votre regard personnel, Dick Howard, sur le résultat de ces élections de demi-mandat et sur le poids que peut avoir le vote des femmes?
D'après les statistiques que j'ai vues ce matin...
Je vous sens très prudent maintenant. C'est vrai que tous les commentateurs sont prudents depuis l'élection présidentielle de 2016.
Mais justement, mon livre commence avec le choc de l'élection de Donald Trump, et ma première réaction était de dire, mais bon, les institutions vont tenir, la séparation des pouvoirs, la constitution, etc. J'ai attendu, et puis il y a eu quand même un moment, il y a surtout Charlottesville, c'est-à-dire le moment où le pouvoir blanc se présente, et tout d'un coup le racisme se présente. Et c'est là où il y a une transformation de la vie politique aux États-Unis. Une des thèses de mon livre, c'est qu'on est passé d'une situation politique où il y avait des adversaires, comme dans un match de foot, si l'on veut. Il y avait des règles établies, les adversaires. Maintenant, on est dans une situation d'ennemis. Donald Trump y apporte quand même de l'huile sur le feu. Et cette situation de combat entre ennemis, on ne peut pas faire des compromis, il faut en finir avec l'autre, et c'est terrible pour le pays et pour l'avenir du pays.
Ouais, une situation politique très clivée. Alors, pour 2020, est-ce qu'il y aura une femme candidate à l'élection présidentielle ?
Je pose réellement la question de savoir si elle est capable de gouverner.
Vous la défendez ou vous l'accusez de tous les maux ?
Je crois que cette femme pourrait bien être ce qui a pu arriver de pire à ce pays.
Ce renouvellement total, ça mènera le pays à perdre une génération. Ces députants seront totalement...
À 100% derrière moi et derrière ce que je représente.
Nous méritons de suivre notre propre voie.
Je ne me laisserai plus dicter ce que je dois faire, Doug. Ni par vous, ni par n'importe quel homme. Ça n'arrivera plus.
Il revient à chacun de nous d'assurer la défense de notre destin. La première femme présidente des États-Unis ne se taira certainement pas.
Qui craignez-vous le plus ? Elle.
C'est la nouvelle, un extrait de la nouvelle saison de House of Cards. L'ancien président est mort, sa femme prend la présidence. C'est quand les séries américaines reflètent des tendances. Il faut rappeler que l'acteur Kevin Spacey, qui jouait le président, a été emporté par le tsunami MeToo. Donc, il a été accusé de viol sur mineur. Donc, il a été écarté de la série au profit d'une femme. Non, mais plus sérieusement, pour 2020... Comment vous voyez les choses, tous les deux, Marion Douzou et Dick Howard ? Est-ce qu'il y aura une femme candidate à l'élection présidentielle ?
Moi, je ne veux pas faire de pronostic pour demain, donc je vais pas trop m'avancer sur 2020. Il y a des femmes qui se sont déjà lancées dans la course. Elizabeth Warren a déjà dit qu'elle serait probablement candidate. Hillary Clinton semble avoir envie de se relancer dans l'aventure. On verra.
Ouais, Elizabeth Warren, d'ailleurs, qui est surnommée Pocahontas par le président Trump. Là aussi, on revient à la violence de la vie politique, qualifiée, malgré son âge, relativement mûre, mais en tout cas, c'est vrai, d'étoile montante dans la vie politique actuelle. On peut peut-être rappeler un peu qui est Elizabeth Warren.
C'était un prof de droit à Harvard qui... très tôt a reconnu les difficultés financières du système, bien avant 2008. On l'a promu d'abord dans un poste administratif. Ensuite, elle a candidaté dans le Massachusetts et elle est prise très au sérieux parce qu'elle parle, elle sait de quoi elle parle. Mais... elle a fait une grosse gaffe et je ne pense pas qu'elle sera viable comme candidate parce qu'elle s'est laissée provoquer par Trump, l'histoire que vous racontez, Pocahontas.
Elle a publié ses origines, en fait, ADN, prouvant ses origines amérindiennes très lointaines.
Voilà. Très, très.
Et Hillary Clinton, juste en quelques secondes, Marion Douzou, qui a dit qu'en fonction des résultats des midterms...
Je suis étonnée.
Ira, n'ira pas.
J'ai l'impression qu'elle n'a pas compris le message qui lui a été envoyé. Je suis étonnée et je pense qu'elle ne gagnerait pas la primaire.
Merci en tout cas à tous les deux, Marion Douzou, Dick Howard. Pour retrouver vos ouvrages, rendez-vous sur le site RFI.fr à la page des 7 milliards. Merci à toute l'équipe. Demain, 7 milliards de voisins. Avoir 70 ans et plus, des femmes racontent leur état d'esprit, leur liberté. Je ne recevrai pas Hillary Clinton, mais des femmes qui parlent en toute franchise de leur âge, de la séduction. Et quant à vous, les voisins et les voisines, bien sûr, on attend vos réactions. À demain.
RFI.